que tu veux encore nous faire entendre ta voix par ta parole. Donne-nous des oreilles qui écoutent, un cœur ouvert, des yeux aussi, qui sont illuminés par ta grâce. Et que ce matin soit pour nous un de ces matins de lumière, un matin de bonheur, en attendant le grand matin, le matin sans nuage, qui ne finira pas. Bénis-nous de ta bénédiction, celle à laquelle tu n'ajoutes aucun sacrifice. Donne-nous de saisir toutes les nuances de ta parole, afin que nous ne nous embarquions pas dans un sens ou dans un autre, mais que nous restions dans le droit chemin. Pour ta seule gloire et notre bonheur suprême et le bien de tous ceux que nous rencontrons sur cette terre, en attendant d'être avec toi et les gens dans le ciel. Amen. Alors, mes bien-aimés, je pense que vous avez eu de la joie de lire ce chapitre 22e et un peu plus de temps pour vous arrêter à certaines de ces vérités. Alors qu'hier, forcément, hier soir, nous avons dû aller assez rapidement puisque nous n'avions pas une minute pour chaque verset. On en avait 61. On voulait finir à 10 heures. On n'avait pas même une minute. Si nous avons commencé à 9 heures, c'est pourquoi vous me pardonnerez si on est allé jusqu'à 10h15. Mais ce matin, parmi les noms qu'on pourrait donner à Jésus dans ce chapitre, quel est celui qui pourrait le mieux lui convenir lorsqu'on se souvient de la manière dont il répondait aux questions insidieuses qu'on lui posait? Hier matin, nous avons donné au Seigneur ce nom de pauvre, le pauvre. Dans le chapitre 20, hier soir, quelqu'un a demandé quel nom on pouvait donner, et évidemment, vous avez pensé au roi, mais pas le roi, quoiqu'on l'ait déjà donné une fois. C'est ça peut être le roi, 2, 8, 26, 26. Mais comme il est parlé de l'enfant, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme titre? L'enfant, roi. Hein? Il y avait un enfant qui était roi. Alors on aurait une idée que dans ce chapitre, on peut trouver le visage de Jésus, enfant, mais en même temps, roi. Celui que les mages sont venus d'Orient pour adorer. Où est le roi d'Égypte? Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme roi? Un enfant. Matthieu, chapitre 2. Vous voyez, il ne s'est jamais opposé. Moi, je tiens, non, moi, je tiens plutôt qu'on dise le roi. Mais, non, moi, je tiens maintenant qu'on dise l'enfant. Mais mettons l'enfant roi. Et voilà, ça satisfait tout le monde. Et au chapitre 21, qu'est-ce que vous auriez donné? Examinez un peu le verset 5. Les pensées d'un homme ou les projets d'un homme comment est-il appelé? Diligent, hein, ou actif, si vous voulez. Le Seigneur n'a pas donné le portrait du paresseux. Il est élevé dès le matin, souvent longtemps avant le jour, et il était en contact avec son père. Et du matin au soir, il servait. Donc, il est vraiment l'homme du vivant. Et qu'est-ce qu'il était venu apporter? La vie, et la vie en abondance. Alors, vous voyez bien qu'il est, on peut très bien trouver là le portrait du Seigneur qui donne la vie en abondance. Tout ce qu'il faisait ne menait qu'à l'abondance. Il voulait apporter vraiment la plénitude. C'est une suggestion que je vous donne. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous avez le mot dedans? Si possible, trouvez des mots qui se trouvent dans l'écriture. L'homme prudent. L'homme prudent. Dans d'autres versions, bien littéral, c'est l'homme avisé. Mais c'est la même chose si vous voulez. L'homme qui est avisé, qui se rend compte de certains dangers. Et Jésus a été l'homme vraiment prudent. Où voyons-nous par exemple sa prudence? Verset 12. Exactement. Hein? Il sait ce qu'il pense. Alors il répond, il ne se laisse pas piéger. Il est extrêmement prudent. Vous voyez, avec les Hérodiens, hein, déjà, quand on vient lui dire, est-ce qu'il est permis de payer le tribut à César? Alors il dit, on lui donne un denier. De qui est cette image, de qui est cette inscription? On lui dit, de César. Eh bien, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà une grande prudence. Et puis, avec les pharisiens, avec les sadducéens aussi, avec la fameuse histoire de sept maris et de la femme, il a une grande prudence. Mais un autre verset, alors, où un autre fait, Jean chapitre 6, qui montre à quel point le Seigneur est avisé, à quel point il est prudent. Dans l'enthousiasme que ses discours et ses miracles provoquent, qu'est-ce que le peuple décide de faire? De le proclamer roi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se casse. Voilà. Un enseignement qui est absolument remarquable hein, par sa vie. Il nous montre que ce n'est pas nécessaire de courir n'importe quel danger, n'importe quel risque. On peut s'y soustraire. On peut s'y soustraire. Ce n'est pas de la lâcheté. Ce n'est pas une fuite de se cacher quand la tentation serait là. Et il le fait aussi pour le bien du peuple. Et pourquoi ne veut-il pas être acclamé roi et y penser? Pourquoi? Parce qu'on royaume n'est pas de ce monde et qu'il ne veut pas régner sur des cœurs irraisonnables. Il faut d'abord qu'il accomplisse l'œuvre qui permettra la régénération des âmes. Et pour ça, il faut qu'il aille à la croix. Il ne veut pas régner sur des cœurs irrégénérés. Il ne veut pas être roi sur les inconvertis. Il veut être le roi qui est reçu vraiment, non pas dans un moment d'euphorie, dans un moment d'exaltation, dans un moment où vraiment on trouve que c'est fantastique, c'est merveilleux. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais lui, il sait très bien que quelques jours après, on dira ce qu'il est, ce qu'il est. Vous voyez, la prudence du Seigneur, il connaît les choses. Et là, il se passe. Alors, souvenons-nous, parce que nous désirons découvrir le visage du Seigneur dans les proverbes, ce n'est pas un exercice intellectuel auquel nous nous livrons, C'est parce que nous voudrions avoir le plus de portraits du Seigneur pour pouvoir, en le contemplant, l'imiter. Imiter le Seigneur. Parce qu'on a maintenant son visage, le visage du Seigneur, et on voudrait qu'il soit tout au fond de notre cœur. Car comme le dit le cantique, le monde cherche le visage du Seigneur, ou tout au fond de notre cœur. Tout au fond de notre cœur. Alors, qu'avons-nous fait de lui? Où est-il, notre Seigneur, au fond du ciel? Est-ce que nous décrivons quelqu'un qui est au fond du ciel? Le monde devrait voir le visage du Seigneur au fond de notre cœur, dans notre vie. Rendons le Seigneur visible par nos propres vies. Alors, voilà pour cette question 3. Maintenant, j'ai essayé de diversifier un peu les questions. Cette lecture, la question 2, inspire-t-elle une prière précise? Est-ce que vous avez compris cette question? Est-ce qu'il y a un texte dans ces versets du chapitre 22e qui pourrait vous inspirer une prière? C'est peut-être pas la même pour tous. Oui, il y en a. Versets 17 à 19. Oui. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. Alors, vous priez quelle prière là? Donne-moi de prêter l'oreille. Donne-moi d'avoir cette confiance qui repose sur toi. Oui. Et quelqu'un d'autre a un éclairage? Oui. Oui. Et quel verset? Verset 6. Hein? Instruis l'enfant selon... Ah, il y en a plusieurs quand même. Verset 6. Voilà une prière, oui. Pour nos enfants, nos petits-enfants. Et est-ce qu'il y a une autre prière? Oh, mais on verra alors. Verset 18. Oui. Parce que, voyez-vous, la vie de prière la plus sûre, c'est une vie qui est nourrie de ses paroles. C'est tout ce point capital là. Hein. La vie de prière excellente, c'est une vie qui est nourrie des paroles du Seigneur et qui va au Seigneur dans la prière avec une parole. Avec une de ses paroles. Alors c'est sûr que c'est dans la volonté de Dieu. Et il est dit que si on demande quelque chose selon la volonté de Dieu, nous savons qu'il nous écoute et nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. C'est là le vrai secret de la prière triomphante et aussi de la prière en tout temps. On est rempli de la parole, on a dans les circonstances les plus diverses un besoin tout à fait précis et bien tout à coup, le Seigneur nous rappelle une parole et elle remonte à lui. Et nous savons que le Seigneur nous exaucera. Chapitre 5 de la première épître de Jean, verset 14 et 15. Et notre pensée, on nous a dit que vous aviez compris cette question autrement. Oui. Du psaume 86, très bien. On pouvait comprendre la chose de plusieurs manières, c'est vrai. Alors, il ne s'est jamais opposé des pensées, c'est les réunir. Alors, ça fait davantage. Et notre drame, toujours, c'est qu'on oppose deux pensées qui sont complémentaires. Autre chose sur cette question, bien, on peut aller plus loin. Alors, quelle instruction personnelle le Seigneur m'adresse-t-il dans ce passage? C'est là que j'aimerais voir un peu si les uns et les autres, vous avez reçu un message personnel s'appliquant peut-être à vous-même dans ce temps présent ou à une des circonstances de votre vie, le Seigneur voulant vous libérer sur un point ou sur un autre, et quelque chose qui vous a handicapé peut-être. Est-ce qu'il y a, vous avez fait des réflexions? Oui, Thérèse. Mais je comprends. Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Quand on est dans une certaine atmosphère et qu'on peut s'en sortir vraiment, eh bien, il y a des moments où on doit quitter cela, c'est vrai. Parce que si cet environnement risque de nous imprégner, et on sent qu'on n'a plus notre place là. C'est vrai. Le Seigneur nous a inscrit quelque chose à autre. Oui, vraiment. C'est très beau, hein, c'est oui, toi. Hein, c'est ça que je voulais que vous puissiez discerner. Ça vous concerne. Toi, moi, n'est-ce pas? Oui, toi. C'est pas pour les autres, d'abord. C'est pour moi. Et ces versets sont absolument merveilleux parce que c'est vraiment le secret pour le témoignage. Que les paroles soient en nous, alors par le Saint-Esprit, elles se trouveront disposé, comme les dit notre version, sur nos lèvres, au moment opportun. On n'aura pas besoin de se creuser la tête en disant « qu'est-ce que je pourrais bien lui dire ?» Mais vous éprouverez que le Seigneur, opérant en vous, mettra la parole sur vos lèvres. Et la personne qui vous entendra s'en souviendra toujours. Et ne vous l'attribuera pas, cette parole. Elle l'attribuera ainsi au Seigneur. Il pourra dire « j'ai reçu du Seigneur », mais pas quel moyen, par quelle personne, mais je l'ai reçu du Seigneur. Cette parole, vous n'étiez pas conscient de la valeur, de la force qu'elle avait pour moi, parce que vous ne connaissiez pas ma situation. Mais vous m'avez donné cette parole il y a 30, il y a 40, il y a 50 ans, et je m'en souviens encore, parce qu'elle correspondait à un besoin tout à fait précis. Ce n'est pas nous qui l'avons pu la donner. Nous ne faisons que transmettre. Et même quand on transmet une parole, nous ignorons encore tout ce qu'elle peut produire. C'est pourquoi vous devez être certain que quand vous semez la parole, vous semez une parole qui a la vie en elle-même. C'est là notre confiance. Et qu'elle ne retournera pas au Seigneur sans avoir produit ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Alors, soyons de ces gens qui aiment la parole et qui ne font pas simplement des lectures dévotionnelles de l'Écriture. Chaque jour, on lit une petite portion pour notre dévotion personnelle, mais pour nous nourrir, pour la manger, pour la digérer, pour l'intégrer. Et alors, après, elle pourra ressortir de ces profondeurs, des profondeurs de notre être qui a été sanctifié, qui a été purifié. Et la parole devient intacte, pure. Est-ce qu'il y a un autre... Oui, Gérard. Verset 1. Comme on l'a dit hier soir, hein, priez-moi, mais... ne voyez plus. C'est vrai, hein, ils étaient brûlés, ils n'avaient pas de témoignage. Mais là, alors, je m'excuse, c'est un peu personnel, mais comme le disait Moria, qu'est-ce qui est vrai, sinon ce que nous avons vécu, hein, c'est quand même quelque chose de personnel. Dans ma vie avec le Seigneur, il y a eu un temps où je pensais avoir tout mis sur l'autel du sacrifice. Mes enfants, ma femme, tout avait été placé réellement sur l'autel. Seigneur, tu sais, tu peux tout me reprendre, pourvu que je demeure fidèle. Et je croyais que vous avez vraiment tout mis. Et un jour, le Seigneur m'a parlé et m'a montré qu'il y avait trois choses que j'allais garder. Puisque j'étais au service du Seigneur, qui touche là un point et qui m'est très sensible. Il y avait trois choses que je croyais absolument devoir garder, je n'étais pas rendu compte de ça. C'était ma réputation, une réputation étape, parce que si je perdais ma réputation, c'est ce que je peux dire. N'est-ce pas? L'estime de mes frères et, troisièmement, la confiance de mes amis. J'avais des amis. Je jouissais de leur confiance, j'avais l'estime de mes frères, et puis j'avais une réputation haute. Alors, je me suis rendu compte qu'au fond, j'étais assez satisfait de ces trois choses. J'étais encore bien jeune, et je me souviens que je m'étais dit un jour, mais quand même, il y a des serviteurs de Dieu, on les critique sur ce point, sur tout ça, mais moi, je suis encore aimé. Et j'étais trop. Et le Seigneur m'a parlé, et m'a montré, mais il nous avertit, il nous donne cette grâce prenante, il m'a averti à l'avance. Tu vas perdre ta réputation, tu vas perdre la confiance de tes amis, et tu vas perdre l'estime de tes frères. Mais j'ai dit, mais Seigneur, alors qu'est-ce que je ferai? Il n'y a plus rien. Tu m'as dit, tant que tu veux conserver ça, comme un joyau pour toi, tu t'estimes plus que moi. Et vous savez, il sait nous transverser par sa parole. Et il m'avait parlé par ce verset, il suffit au disciple qu'il soit comme son maître et à l'envoyer comme celui qui l'a envoyé. C'est le chapitre 10 de Matthieu, verset 25. Alors, le Seigneur vous retourne la parole, hein, elle satisfie à toi d'être comme moi. Alors, c'est ça que je dis. Mais, Seigneur, je voudrais garder ma réputation. Oui, mais moi, ma réputation, qu'est-ce qu'on disait de moi? La réputation du Seigneur. Alors, tout à coup, ça s'est éclairé d'une façon très vive. Si vous dites aujourd'hui de quelqu'un, c'est l'ami des prostituées et des pécheurs, qu'est-ce que ça veut dire en français? Hein? C'est pas un différent dessin. Et maintenant, l'estime de mes frères, voilà que je suis ramené au chapitre de ma conversion, Ésaïe 53. Vous voyez comme on oublie des choses. Ils n'ont eu pour moi, pour lui, aucune estime. Délaissé les hommes, ils n'ont eu pour moi aucune estime. Toi, tu veux garder l'estime, tu t'estimes plus que moi. Et maintenant, la conscience de mes amis, souvenez-vous du discours des disciples de Maïs sur le chemin. Nous espérions que c'était lui qui devait délivrer Israël. Donc, ils avaient mis leur confiance en lui, ils avaient des projets pour lui, et puis voilà qu'il avait disparu, ils étaient déçus, et j'ai réalisé aussi que plusieurs de mes frères plus âgés avaient une confiance en moi, mais parce qu'ils vivaient à quelque chose pour moi. Et je risquais peut-être un jour de les décevoir si je ne marchais pas exactement selon leur vie, et selon leurs pensées. Et peu de temps après cette visitation du Seigneur, pour me préparer, eh bien, tout cela est arrivé. Et alors, pour justifier ce qu'on faisait à mon égard, eh bien, la calomnie, on s'est servi de n'importe quoi pour essayer de salir ma réputation. C'était pas facile. J'aurais pu faire des procès à certains frères. J'avais 4 enfants à ce moment-là, et on racontait que 8 ans avant, j'avais essayé de briser un ménage en m'occupant d'une âme. Toutes des calomnies. Mais quand même, répandez ces choses. Il en reste presque toujours quelque chose. On dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Alors il faut vraiment se tenir au pied du Seigneur. Il faut vraiment être à la croix pour ne pas avoir des réactions charnelles. Puis continuer d'aimer ceux qui vous calomnient, ceux qui écrivent des lettres épouvantables dans plusieurs pays pour essayer de détruire absolument votre réputation. Quand on vous écrit, nous portons le deuil sur vous. Ça veut dire qu'on est mort. Tout ça, quand on nous dit, quel est le prix à payer pour être au service du Seigneur? Jésus, c'est lui qui a payé. Nous, vous, de vous, on n'est pas de bois, on n'est pas de marbre. C'est des choses qu'on sent, qu'on éprouve. Mais il est dit, tout chose travaille. Ça fait mal, c'est pas un simple concours, c'est ce travail d'une femme enceinte, mais ça va déboucher sur une vie plus approfondie, où le Seigneur aura toute la gloire. Seigneur, j'ai souvent demandé que je puisse te ressembler, et alors, bien, le Seigneur travaille pour nous amener, pour nous rendre conformes à lui dans sa mort. Et c'est ça qui est difficile. Conformes à lui dans sa mort, pour que nous puissions aussi, alors, avoir part à sa résurrection. Et c'est comme ressuscité en lui qu'on revient de ces abîmes profonds où les hommes nous ont plongés. Quand tout à coup, l'estime que vous sentiez, c'est des frères, alors que nous n'avons rien eu entre nous. Et tout à coup, c'est vraiment le rideau de fer. Plus que leur idée de bambou. Il faut être prêt à cela. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Mais c'est vrai que notre père Gérard disait, on peut vraiment penser que si on n'a pas une bonne renommée, si on a pu salir notre réputation, il n'y a plus rien, il ne reste plus rien. Moi je pensais, je ne pourrais pas te servir. Mais le Seigneur à ses moyens. Et alors, de nouveau dans les proverbes, vous comprenez pourquoi je vous disais aussi que j'avais été sensibilisé par ce verset, celui qui se tient à l'écart. On voudrait faire comme Jérémie, partir, construire une cabane quelque part, mais ne plus voir tous ces gens-là. Ne plus vivre au milieu de ces gens-là, et surtout de ces gens doux chrétiens, qui le sont peut-être, mais qui sont faillis, et qui se laissent emporter. Alors que celui qui se tient à l'écart recherche ce qui lui plaît, le pays de toute justice reste. Et puis un autre verset, quand les voix d'un homme plaisent à l'Éternel, il met en paix ses ennemis. Il met en paix ses ennemis. Alors, il y a quand même un facteur temps dans nos épreuves. Il y a des choses, il y a que le temps qui les manifeste. Et il faut accepter ce temps. Le Seigneur, en son temps, manifeste. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? Ben, j'ai vu jusqu'à Montréal, un homme de 600 jours frappait à ma porte à Montréal. C'est un homme qui était assez considéré, pour ne pas dire considérable. Et il venait me demander pardon de tout le mal qu'il m'avait fait. Or, j'ai dit, mais alors, on s'est pardonné. Alors, il a voulu quand même confesser les choses qu'il avait dites, les choses qu'il avait faites. c'est pas nous qui pouvons convaincre. Nous n'avons pas à vouloir nous justifier. On dit cela, eh bien, laissons passer. Et je dirais qu'un prêtre m'a beaucoup aidé dans cela. C'est le Père Jean-Roger qui est maintenant près du Seigneur, dont la dépouille repose à Jérusalem, dans la maison de Caïs. Un jour, j'avais fait des conférences en France, et puis, je n'ai pas allongé là-dessus, mais j'avais eu une attitude, il y avait 1800 personnes, je pense, c'est une grande tente, et puis, j'étais avec un prêtre canadien, que plusieurs connaissent. Alors nous prêchions ensemble pendant une semaine. Et puis, un jour, c'était lui qui prêchait, j'étais assis sur l'estrade avec lui et un autre serviteur de Dieu qui est maintenant aussi auprès du Seigneur depuis l'année passée, qui est très connu en Europe. Ce prêtre canadien a dit, il y a eu dans le ciel un silence d'une demi-heure. Alors, je vous demande maintenant qu'on ait un silence d'une demi-heure. C'était en plein après-midi, une chaleur monte. Et il y a eu ce silence d'une demi-heure. Et moi, avec mon dos malade, j'avais des douleurs effroyables. Puis tout à coup, je vois le père, là, qui se couche par terre, sur les traces. Et je me suis dit, il n'est pas bon. Puis je vois Thomas Robert qui fait la même chose. Et je me dis pourquoi est-ce que je ne vais pas rester assis quand eux sont couchés. Pendant cette demi-heure, ça me ravit bien à mon dos. Et je me suis couché. Alors nous étions les trois sur les strates par terre, couchés. Pendant cette demi-heure silence. Ce n'est pas moi qui dirigeais la réunion, c'était Rosenbach. Bon. Alors, je me suis couché. Au bout de sa demi-heure, parce qu'il contrôlait quand même sa montre, lui s'est levé pour continuer la réunion. Mais moi, je l'ai trouvé assez vieux. Je n'ai pas fini ma prière poussée. Alors, je ne suis pas levé comme un automate parce que Rosenbach se levait. Et puis que Thomas s'était levé. Je suis resté un moment encore étendu. Puis après, quand le Seigneur me l'a montré, je me suis levé tranquillement. Quelques mois après, je suis apparu en téléphone. Il faut absolument qu'on ait un entretien avec lui, c'est très important. Il y a un journal qui a publié quelque chose à votre sujet, etc. Alors, je n'avais que peu de temps. On est venu me trouver à l'hôtel où j'étais à 7h du matin. Et on me montre ce journal. Pour vous montrer ce qu'est la puissance du Saint-Esprit. Ben, vous connaissez tous les Gaston Racine, prédicateurs, etc. Voilà. Eh bien, dans quelle réunion? Il a été tellement écrasé par la puissance du Saint-Esprit qu'il ne pouvait plus se relever. Puis, et enfin, on brodait là aussi. Alors évidemment, quand j'ai vu ça, j'étais pas très très heureux. Enfin, j'ai mis les choses au point, j'ai raconté ce qui s'était passé. Mais on m'a dit, oui, mais vos enfants ont fait du bruit jusqu'à Aix-en-Provence. Et puis, à Nice aussi, mais une de vos filles a dit, c'est pas vrai, papa, moi je le connais, c'est ma petite Françoise. On a raconté des bobards sur lui. C'est pas ce qui s'est passé, mais moi j'y crois pas à tout ça. Et ailleurs, eh bien, on s'est demandé, il faudrait quand même lui demander ce qui s'est passé. Alors je vois la femme d'un médecin à Paris, lui montre ça, j'allais partir pour Israël, elle me dit, vous devez exiger que ce pasteur, parce que c'est un pasteur qui avait écrit ça, il se rétracte publiquement dans le journal. Bon, parce qu'on dit assez de choses sur vous, on va encore exploiter ça pour vous faire du cœur dans certaines idées. J'arrivais à Jérusalem, puis on travaillait pendant 15 jours, ces 3 semaines avec le père Jean-Roger, je couchais dans la chambre à côté de lui. Alors il lui montre ça, puis je lui dis qu'est-ce que tu penses. Il a prié. Qui m'a regardé avec son beau sourire à travers sa barbe de Moïse. Il avait une grande barbe. Puis il me dit d'un son, laisse-les dire. Il vaut mieux qu'ils disent que c'est écrasé par le Saint-Esprit, par autre chose. Ou par quelqu'un d'autre. Et je l'ai regardé pour la souris, je lui ai dit, tu as raison. Et je l'ai fait tomber là. Alors bien voilà, 2 ans après, je me suis retrouvé dans le même milieu. Et puis, il y avait ce pasteur qui avait écrit ce bobard. Et l'avant-dernier jour, il est venu frapper à la porte de l'hôtel où j'étais. Je ne connaissais pas, je ne savais pas que c'était lui. Il était tout tremblotant comme ça. Il dit, c'est moi qui ai écrit ça. Est-ce que vous voulez que je me rétracte publiquement devant l'auditoire? Je lui dis, pas du tout, même pas ça, mais je voudrais savoir pourquoi vous avez écrit ça. Ben, il est venu tendance contre 6 ans. Et puis, il voulait se servir de mon nom pour montrer que j'étais aussi dans ce jeu-là. Voilà. Alors, vous devez vous habituer à toutes ces interprétations. Mais notre réputation, elle est au Seigneur. Alors, nous passons maintenant rapidement sur ces textes. La réputation est préférable à de grandes richesses. Et évidemment, la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Pour quelle raison? Avec de l'or et de l'argent, est-ce que vous pouvez vous acheter votre salut? Qu'est-ce qui fait votre salut? La grâce. Alors vous comprenez pourquoi la grâce vaut mieux que l'argent et l'or? Parce que vous êtes sauvé par la grâce. Je suis là, la version c'est bien. Il y a des petites nuances dans d'autres versions, mais peu importe. Verset 2. Le riche et le pauvre se rencontrent. Car c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. On ne veut pas dire qu'il a fait la pauvreté. Le Seigneur n'avait pas envisager vraiment que l'homme soit pauvre, il voulait qu'il ait tout en abondance. Mais il y a maintenant, à cause du péché, des gens qui sont pauvres et puis des gens qui sont riches. Et qui les a fait, l'un et l'autre, c'est le Seigneur. Maintenant, les chemins ont été différents. L'un est pauvre, l'autre est riche. Ils se rencontrent. Alors, qu'est-ce que vous verriez comme illustration dans l'écriture, des riches et des pauvres qui se rencontrent. Oui, dans un sens, mais des riches et des pauvres qui se rencontrent au pied du Seigneur en quelque sorte. En quelque sorte. Parce que le Seigneur aime les pauvres, il se révèle à eux où? Dans les champs de Bethléem. La nuit où Jésus est né, et puis, qu'est-ce qui vient de loin du pays d'Orient? Des rois mages. Et ils sont au pied du Seigneur, les pauvres élevés jusqu'à lui, et les riches abaissés jusqu'à lui. Tous les riches déposent leur présence au pied du Seigneur. Et c'est là que vous voyez que c'est le Seigneur, lui, seul, qui fait l'égalité. Il ne dépossède pas le pauvre, le riche. Le riche, il en fait l'administrateur de ses biens et il lui permet de donner aux pauvres, le vrai pauvre que c'est Jésus. Mais les pauvres de ce monde, le Seigneur dans sa grâce, les élève jusqu'à lui. De dessus le fumier, il fait lever le misérable. De sorte que l'égalité, un des points de la belle devise française, c'est le Seigneur. Et qui la réalise. Liberté, c'est le Seigneur qui la donne. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. L'égalité, c'est le Seigneur qui la donne. Et puis la fraternité, c'est encore lui seul qui la donne, car c'est en recevant le Fils que nous devenons les enfants du Père. Il n'y a pas de fraternité s'il n'y a pas une paternité. Alors, c'est en Christ que nous devenons des frères parce que nous découvrons le même Père. Il y aurait bien des choses à dire là-dessus. Verset 3. Alors, l'homme prudent voit le mal et se cache, nous avons déjà dit, mais les simples avancent et sont pures. Mais ça, on ne réfléchit pas, on n'est pas prudent, alors on veut nous placer à certaines responsabilités pour lesquelles le Seigneur ne nous a pas appelés. Mais il y a des gens qui se figurent qu'ils peuvent nous employer, qu'ils peuvent nous utiliser. Alors ils nous font des promesses, ils nous font tout un plan, ils voudraient nous engager à ceci, à cela, et c'est là qu'il faut savoir dire non. Non. Ça m'est arrivé encore l'année passée, il y a 2 ans aussi, où j'ai dû dire carrément non à des personnes qui voulaient soi-disant mon bien, manger ceci, ce matériel jusqu'à la fin des jours et profiter. Et nous ne voulons pas sortir de cette dépendance du Seigneur. Le verset 4, le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est quoi? La richesse, la gloire et la vie. Vous pouvez rapprocher ce verset d'autres versets où il y a 3 choses ici qui sont mentionnées. Et c'est quelque chose de très très beau. Et qui est-ce qui a réalisé ça? Le fruit de l'humilité, on l'a vu en Christ, en Jésus. Alors vous voyez, on discerne le Fils là. Il était doux et humble de cœur. Et qui est-ce qui craignait l'Éternel? Qui ne faisait rien qu'il n'avait vu faire par le Père, qui ne disait rien qu'il n'avait entendu dire par le Père? C'était Jésus de nouveau. Il avait l'humilité et la crainte du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a eu? La richesse, la gloire et la vie. Il est ressuscité des morts. Il a été élevé dans une gloire aussi haute que son abaissement a été profond, et c'est à lui que sont toutes les richesses. Les richesses insondables du Christ, dit l'apôtre Paul. Verset 5, des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Et c'est vrai, nous le savons, le monde est rempli de ces épines et de ces pièges. Et le pervers, eh bien, devra les connaître. Mais celui qui garde son âme, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en éloigne parce qu'il est intelligent. Verset 6, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. On a vu un autre passage sur l'enfant dans le chapitre 20. Ici, on voit maintenant ce qu'on doit faire. Ayant discerné ce qui est dans l'enfant, nous devons maintenant l'instruire, lui montrer le chemin qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il le sent, détournera pas. Et on le voit chez ces hommes comme Moïse, qui a été instruit par qui? Par sa mère, pendant qu'elle était sa nourrice. Donc c'est ce qu'il a reçu tout petit enfant qui est resté en Moïse. Et on le voit chez Samuel, qu'est-ce qu'il a instruit? Anne, avant qu'il aille chez le vieil Élie. Le vieil Élie qui pensait qu'il plaisait à l'Éternel, en reprenant doucement ses fils qui ne marchaient pas selon le Seigneur, il les reprenait avec douceur. Et il pensait que ça suffisait. Mais le Seigneur lui dit, tu honores tes fils, dis que moi. Le Seigneur faisait toutes choses. Et nous, les parents, nous pensons, mais je suis assez sévère, je leur ai assez dit. Non, non, tu ne leur as pas assez dit. Tu n'as pas été rigoureux. Tu les aimais de l'amour purement charnel et tu les perdras. C'est ce qu'on a vu dans les versets précédents, dans le chapitre. Mais quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors ça c'est le psaume 71 qui nous dit que dès notre jeunesse, on a pu recevoir ses paroles. Et alors, on s'est confié à lui de notre jeunesse. Verset 5 du psaume 71. Tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. Dès les entrailles de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel, qui est sans cesse l'objet de mes louanges. Et puis ensuite, alors, ne m'abandonne pas au jour de ma jeunesse. Et c'est le riche domine sur l'épaule, c'est facile à concevoir. Et celui qui emprunte, c'est ce qui risque d'être l'esclave de celui qui prête. C'est pour ça que c'est impossible pour ne pas vous mettre dans cette situation. Celui qui sème l'iniquité, qu'est-ce qui moissonnera ? L'injustice et l'iniquité. Celui qui sème l'iniquité, si vous semez le péché, vous ne récolterez pas la grâce. C'est pas possible. Si je sème des carottes, je vais pas récolter des pommes de terre. Non, c'est pas du rêve. C'est pas semer une certaine semence et dire Seigneur, permet que je récolte autre chose. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Si tu sèmes le vent, qu'est-ce que tu récolteras même? La tempête. Alors, veillons à ça. Verset 9. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Quelle personne vous pouvez penser? Bien sûr, aussi au Seigneur. Il le regarde avec bonté. Il regardait les âmes avec amour. Et il était le béni de Dieu. Mais qu'est-ce qu'un regarder russe, par exemple, une étrangère, avec un regard bienveillant, beau? Et il a été béni, puisqu'il est devenu le mari de cette femme, la seule femme dont on sait le nom, dont il soit dit qu'elle était vertueuse. Il y a beaucoup de noms de femmes, mais la seule femme dans la Bible dont on connaît le nom et de laquelle il est dit qu'elle était vertueuse, c'est Ruth, une Moabite, une étrangère. C'est extraordinaire, hein, que c'est la grâce. Toute la force de mon peuple vous sait que tu es une femme vertueuse. C'est ce que nous voyons dans le chapitre 2 du livre de Ruth. Et il est béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. C'était Ruth. Elle était pauvre. Et Boaz a voulu donner de son pain, du pain de ses ouvriers, à Ruth. Et même du breuvage. Elle s'est dit, sache le moqueur et la querelle prendra fin. Ça aussi c'est vrai. Et on aurait des exemples. Quand on met de côté le moqueur, il y a des querelles qui nous font. Le moqueur, c'est celui qui ne se soucie pas de Dieu. Or, si je me soucie de Dieu, je sais que je ne peux pas avoir de querelles. Mais on ne se moque pas de Dieu. Dieu ne veut pas de querelles, alors je ne vais pas me moquer de Dieu. Les disputes et les outrages cesseront. Vous voyez, la querelle doit prendre fin, les disputes et les outrages cesseront. Est-ce que ça ne nous dit rien, l'ami? Nous devons être hors de ces choses. C'est des choses qu'on a jugées définitivement. Pas de querelle, pas d'outrage, pas de dispute. Parce que je veux suivre le Seigneur. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Qui est le roi ici? C'est Jésus encore. Alors, vous cultivez l'amitié avec le Seigneur. Mais, comme le Seigneur a les yeux trop purs pour voir le mal, si mon cœur n'est pas pur, eh bien, je n'aurai pas le roi pour ami. Et je n'aurai pas non plus la grâce sur les lèvres. Parce que pour qu'il y ait la grâce sur les lèvres, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans mon cœur? La pureté. Pureté dans mon cœur, grâce sur mes lèvres, amitié du roi. Voilà trois points sur lesquels on pourrait méditer. Les yeux de l'Éternel gardent la science, mais ils confondent les paroles du perfide. Il confond ou il renverse les paroles du perfide. Mais là où il y a de la connaissance, le Seigneur se plaît à porter les regards. Verset 13. On retrouve le paresseux. Et qu'est-ce qu'il dit? On a déjà vu que quand il fait froid, il n'y a pas besoin d'abourrer. Hein. On a toujours des prétextes pour ne rien faire. Vous connaissez ces gens qui trouvent toutes sortes d'excuses, toutes sortes de prétextes. Alors le paresseux dit, il y a un lion dehors. Vous pourrez dire, il y a un loup ici, parce qu'un jour, dans un des camps à Anaïm, quelqu'un prétendait avoir vu un loup. C'était le premier camp. On avait le chef pasteur son pendant. Il y avait un genevois qui était là. Il avait vu un ours à la chapelle. C'est parce que l'ours faisait là. Il y a des ours au Canada, c'est vrai. Alors, parce qu'il y a un lion dehors, on ne sort pas. Tu le serais tué dans les rues. Alors, j'ai mieux de ne pas travailler. Vous voyez, c'est toujours les prétextes. Ça, c'est le paresseux. La bouche des étrangères est une fosse profonde. Celui contre qui l'éternel est irrité, il tombera. Ah, vous savez, hein. Dire que c'est, ça peut être un châtiment, qui soit bien de l'éternel, une telle femme, ça fait très mine. Ça sent plus loin. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Voilà encore un troisième verset qui nous parle de l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Puisque la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et là, c'est la correction corporelle. C'est absolument clair, mais évidemment, aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler d'une correction corporelle. Et pourtant, il est très clair que la verge, et c'est pourquoi, prend la verge, il tape sur la terre. C'est ça? Avec une verge, on tape sur la terre? Non. Alors, où faut-il taper? À la bonne place. Où on ne frappe pas de mal, là où le don change de nom. Pour être correct. Et puis, il faut le faire, justement, non dans la colère. Ce n'est pas comme un ours qui déchire les habits. On dit à l'enfant de faire ce travail-là. Et il sait ce qu'il a à faire. Et il sait qu'on ne le frappera pas plus qu'il ne faut, mais il doit se soumettre. Donc on a un entretien avec lui avant de le corriger. Et l'enfant accepte. Et il sait qu'il est sur les genoux de son père et que tout est mesuré. Une correction sur les genoux. Et non pas n'importe comment. Des claques, paf, 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 qui ont cassé du nez de son enfant. Ben, on parlera de ça plus tard, hein, quand on aura fini la chose. Si vous avez des versets sur lesquels vous désirez revenir, notez-les, et puis à la fin, mais c'est parce que c'est enregistré là, il faut passer plus loin. Verset 16. Opprimer le pauvre. Pour augmenter son bien, c'est donné aux riches pour n'arriver qu'à la disette. Là, eh bien, les patrons aussi doivent s'examiner devant le Seigneur. Est-ce que nos ouvriers, si nous avons des ouvriers, qui sont de mauvaises conditions, est-ce que nous les opprimons pour nous augmenter notre bien, ou bien est-ce que nous avons déjà cette vision de donner une part de nos bénéfices à nos ouvriers? Vous savez qu'il y a des maisons chrétiennes, des maisons d'affaires, et qui ont déjà compris cela, et qui font une part aux ouvriers de leurs bénéfices. Et qui sont des maisons pilotes, pour moi, dans la chrétienté. Ce n'est pas le patron seulement qui s'enrichit s'il y a des bénéfices, mais c'est aussi les ouvriers. Verset 17. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi, qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. On a déjà considéré ces versets, alors nous pouvons passer. Ils sont d'une importance capitale. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Donc, nous recevons cela en plein cœur. N'est-ce pas déjà écrit pour toi et mis par écrit des conseils et des réflexions? Il faut les connaître. Pour t'enseigner des choses pures, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Que le Seigneur nous donne d'être remplis de ses paroles. Et que quand nous allons vers le Seigneur, nous puissions aussi lui dire la vérité au sujet de notre service et du travail qu'il nous a confié, et pas autre chose. Par exemple, quand on fait une circulaire, nous devons tellement veiller à ce que nous mettons là. Si c'est le Seigneur qui nous a envoyé, mais gardons-nous de ne pas dire des choses, soit d'exagérer certaines bénédictions que nous aurions dans notre travail. Restons petits à nos propres yeux, modestes aussi. Et si on veut parler de résultats, faisons attention. Ce pasteur qui était avec nous pour le premier camp à Anaïm me disait d'un serviteur de Dieu qui avait une grande réputation, mais qui aimait bien raconter que dans telle réunion, il y avait eu tant de conversions. Ce pasteur me disait, moi j'ai l'habitude de toujours diviser par deux les chiffres qu'il nous donne. Ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre, et n'opprime pas le malheureux à la porte. À la porte, c'est en justice. Car l'Éternel défendra leur cause. Ils n'ont pas d'avocat, bien le Seigneur sera leur avocat. Et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Vous voyez que le Seigneur est juste, mais son châtiment est vraiment effrayant. Et je dois craindre, c'est que lui peut monter la vie. Si j'ai dépouillé quelqu'un, ne fréquente pas l'homme colère, on a vu cela, parce que on est dans cette atmosphère-là et on risque de devenir aussi violent, de peur qu'il ne s'habitue à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour son âme. On a vu cela pendant la guerre. On a vu cela en Allemagne en particulier et un peu partout. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes, de nouveau ce cautionnement, et puis parmi ceux qui prennent des engagements, c'est-à-dire qui font des vœux aussi, imprudents. Mais là, je voudrais peut-être un peu nuancer ce que vous avez pu comprendre hier soir où nous devions aller assez rapidement. Par exemple, quelqu'un qui est conduit pour lui-même à se dire que ce soit délivré, par exemple, de la cigarette ou de ceci ou cela, eh bien, je crois que je dois prendre cet engagement devant Dieu, sérieusement. Alors, si vous prenez cet engagement pour vous-même, c'est quelque chose qui est entre vous et le Seigneur. Vous pouvez le faire. Si vous manquez à votre engagement, c'est avec le Seigneur qu'il aurait à faire. Mais ce qui nous est demandé, c'est de ne pas prendre d'engagement et de faire des vœux vis-à-vis des gens, des hommes. Parce que alors là, si vous ne le tenez pas, vous faites du tort. Comprenez-vous la nuance? Vous êtes bien obligé. Bien souvent, on prend un engagement. Alors, si vous avez pris cet engagement personnel entre vous et le Seigneur, tenez-le. Je n'ai pas dit qu'il fallait jamais prendre d'engagement, mais faire un vœu comme cela, par exemple, ce vœu de célibat, et puis vous le proclamez, vous le dites, et puis après avoir fait ce vœu du célibat, jusqu'à la fin de vos jours, vous rencontrez l'âme sœur. Et vous oubliez que vous avez fait le vœu du célibat. Et vous l'épousez. Alors, vous apparaissez comment aux yeux des hommes? C'est ces choses-là qu'il ne faut pas faire. Ne vous engagez pas dans ces choses-là, parce que vous en aurez des dommages. Le Seigneur veut que vous soyez libres. Et alors, de nouveau, le questionnement, verset 27, si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on t'enleva ton lit de dessus de toi? Hier, c'était quoi qu'on enlèverait? Ton vêtement. Puis maintenant, c'est lui. Alors, ça va mal quand même. Plus de vêtements, plus de lit, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, la parole, elle est forte, elle vous heurte. Et ça doit nous heurter. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Voyez-vous, il y a quand même des principes que nos pères nous ont donnés. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voudrait faire? C'est ça, déplacer les bornes. Ça, c'était bon pour leur temps. Mais maintenant, nous sommes émancipés. On déplace les bornes. Ça peut être aussi littéral. On déplace les bornes parce qu'on est, voleur, on veut prendre le terrain. Hein. Les bornes marquent un terrain, une propriété. Alors on déplace les bornes. Nous ne devons pas déplacer les bornes que nos pères ont posées. Alors ça, spirituellement, il y aurait beaucoup à voir à méditer là-dessus. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Là aussi, vous auriez bien des exemples. Le Seigneur, qui a donné l'habileté à l'homme, bien, il l'emploie. Pour quelle construction, par exemple? Le temple, le tabernacle, déjà, il y avait des hommes qui étaient habiles et que le Seigneur employait pour donner des leçons à d'autres. Et ces hommes habiles, ils ne restaient pas près des gens obscurs, mais ils étaient appelés près des rois. Et dans l'histoire profane aussi, eh bien, les grands artistes, ils ne sont pas restés près des gens obscurs. Quand on pense à Michel-Ange, quand on pense à d'autres encore, ce sont des gens qui ont été employés à des œuvres qui ont une réputation mondiale. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, ça? Ben, on doit l'enseigner avant de le corriger. Parce que alors, si vous le corrigez sans l'enseigner, il ne saura pas pourquoi. Mais ça, il faut lui dire d'abord les choses. On ne va pas se bagarrer là-dessus, hein. Mais ça, il y a une sagesse. Évidemment, à un petit bébé, mais vous pouvez déjà à un petit bébé lui faire comprendre par des paroles douces qu'il y a des choses qui ne se font pas. Il comprend plus que vous ne pensez. Mais peut-être que vous ne pouvez pas lui faire un long discours et vous dire c'est une petite tape. Mais mesurez toutes choses. Et puis, ayez toujours l'ensemble de l'écriture, ne jamais frapper avec le désir de meurtrir ou de tuer. C'est pas cela. Puis encore, demandez au Seigneur, qu'est-ce que j'ai à faire? Mais oui ou non, est-ce qu'il est parlé de la verge dans l'écriture? Il en est parlé. Et il y a des enfants, dans la même famille, il y a des enfants qui ne recevront jamais la verge, parce qu'ils comprennent tout de suite. C'est pas parce qu'on les favorise. Mais on n'aurait pas de raison de les punir avec la verge. Parce que quand on leur dit quelque chose, la sainte parole d'un père ou d'une mère, ou sa tristesse, fait un tel effet que ça vaut beaucoup mieux que cette correction. C'est une correction, reçoit la correction par une parole. Mais il y a des enfants qui ont un autre caractère, qui sont plus durs, et qui recevront alors peut-être une leçon par quelques coups, mais encore mesurés. Parce que notre père, c'est toujours en regardant à ce que fait notre père. Et c'est pas un plaisir pour le père. Mais je veux que mon enfant marche dans les voies du Seigneur. C'est un peu une fois que tu vas se faire, enfant. J'ai eu un malaise. Ah bien, je suis content qu'on ait la communion. Parce que j'ai vu comment ils faisaient ça, puis ça rigole, puis ça les amuse. Or, la croix, c'est un amusement. Oui, tu vois, alors ils se lèvent, ils s'assoient, puis ils sont sur la croix, puis ils redescendent, et puis bam bam. C'est du théâtre. Il faut faire attention à ce qu'on apprend aux enfants. Seigneur, nous voulons te demander ta sagesse. Et nous sommes tellement reconnaissants que tu nous aies donné ces proverbes. Nous achetons toutes sortes de livres dans les librairies, des livres même très chrétiens, pour savoir comment élever nos enfants, comment faire ceci, comment faire cela. Et pourtant, nous avons ça. Nous voulons te demander que tu nous donnes de retrouver la confiance dans ce sens. Car si les temps ont changé, le cœur de l'homme n'a pas changé. Et tu nous décris même dans ta parole quel serait le caractère des enfants des derniers temps. Mais tu nous as donné aussi ce qui est nécessaire pour instruire nos enfants dans les derniers temps. Et nous voulons te demander que nous les parents, ou les grands-parents, nous soyons à ton école encore, et toujours à ton écoute, pour que nous ne fassions rien qui ne soit hors de tes pensées et de ta volonté. Tu as pris tant de temps pour nous instruire. Donne-nous d'être des âmes reconnaissantes et obéissantes jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen.